RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Vous jugez ? Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, RMC Story. Un petit salut à mon camarade Olivier Truchot qui est à Lyon. Aujourd'hui, il vient rencontrer, en tant que journaliste de BFM TV et d'RMC, le public, à la rencontre du public lyonnais pour une après-midi de questions-réponses à la Cité Gastronomique. C'est à partir de 14h, si vous voulez aller rencontrer Olivier, discuter avec lui d'infos, lui poser toutes les questions vérité. Faut pas hésiter. Aujourd'hui dans les GG, Joël Dagosséry qui est avec nous, coach de vie. Bonjour ma chère Joël. Ça va ?
Oui, non, c'est parce que c'était un peu la course.
T'étais pas sur le périph', t'étais en partie bloqué là, non ?
Non, j'étais à la loge maquillage.
Ah oui, et ce qui veut dire que ça prend du temps alors ?
Exactement, ça prend pas mal de temps. Je veux juste dire un joyeux anniversaire à ma chérie Lila.
Voilà. On l'embrasse.
Vous pouvez l'embrasser, elle sera contente.
On t'embrasse. Monsieur Jean-Baptiste Djebari est avec nous, l'ancien ministre des Transports. Bonjour, mon cher Jean-Baptiste. Alors, j'ai lu que tu t'étais plus chez Opium, la société qui va fabriquer des voitures à hydrogène.
Alors oui, bonjour à tous. C'est une très belle start-up Opium. Non, moi j'ai été ravi de les aider pendant quasiment une année, un peu pour renforcer la stratégie, pour organiser mieux la boîte et pour nouer des partenariats industriels. Et puis j'ai d'autres projets depuis quelques semaines, là, d'autres projets plus personnels. J'avais envie de m'y consacrer pleinement.
Donc t'as fait ta mission et maintenant tu passes à autre chose.
J'ai trouvé un successeur qui est vraiment absolument fantastique, Alain Guillou, qui va présider Opium. Et donc moi je souhaite évidemment bon courage et je regarderai de là où je serai avec beaucoup de bienveillance.
D'accord, on suivra ça. Monsieur Bruno Poncé, bonjour.
Bonjour à tous et je tiens à dire aux Lyonnais que Olivier Truchot est plus sympa en vrai qu'à la télé. Au moins que ça puisse un peu, c'est que j'ai pas peur de lui quoi.
Monsieur Bruno Poncé, cheminot et syndicaliste qui va mener bataille aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules, comme vous pouvez vous en douter, face au reste du monde. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Un petit salut aussi à la une de l'équipe. Ah nice day. L'OGC Nice qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. La Ligue Europa Conférence. On est en quart. Donc, je salue mes petits aiglons chéris puisque maintenant, la France compte sur l'OGC Nice pour monter au classement UEFA, à l'indice UEFA. Vous allez voir qu'on va la gagner cette coupe, que certains disent coupe en bois, on s'en fout, c'est une coupe d'Europe les amis. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Allez, on y va, on va parler de l'actualité. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG ? La motion de censure, faire tomber le gouvernement, ce sera le GG 7 et match à 11h20. À 10h, les violences qui ont commencé hier dans plusieurs villes et notamment à Paris. Je vous pose la question de confiance, c'est la mode en ce moment, la question de confiance. Vous comprenez ou vous condamnez ? C'est au 32-16 qu'on en parlera tout à l'heure à 10h. Mais premier sujet de discussion, vous vous en doutez, c'est le 49-3, c'est à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce 49-3, qui a été utilisé 100 fois quand même, hein, depuis la 5e République, est-ce que ce 49-3 plus particulièrement, c'est le 49-3 de la honte ? 32-16 pour le dire au GG, on revient sur ce qui s'est passé hier au Palais Bourbon, la séquence Madame Borne, la Marseillaise et les huées.
RMC, les grandes gueules.
Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
J'ai été très choquée. Le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est le lieu où on débat. Donc si on ne veut pas s'écouter, je pense que ça traduit le fait qu'un certain nombre de groupes d'opposition ne respectent pas nos institutions. Certains, du reste, l'ont dit clairement, ils veulent le chaos à l'Assemblée et dans la rue.
Elle a été choquée, Madame Borne, ce qu'elle a dit hier chez nos confrères de TF1, choquée de ce qui s'est passé quand elle a essayé de prendre la parole, cette Marseillaise. Ça a été compliqué pour elle pour expliquer ce qu'elle allait faire. D'ailleurs, tous les autres groupes qui étaient présents dans l'hémicycle, tous les autres députés ont dit on n'entendait rien. Mmh. On ne comprenait pas. Donc, elle a une nouvelle fois fustigé l'attitude de la France insoumise. Est-ce que c'est un échec d'utiliser le 49-3? Il y a quelques minutes, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, était en direct sur RMC. Voilà sa réponse.
Quel échec?
Je crois pas.
Ah non ?
Non, je ne crois pas, parce que ça serait un échec s'il n'y avait pas de texte. Or, il y a un texte. Il y a un texte qui a été examiné, adopté par le Sénat, qui a été examiné et adopté par la commission mixte paritaire, qui a eu une majorité au Sénat, à deux reprises, en première lecture, lorsqu'il a fallu adopter les conclusions. Et effectivement, il n'y a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale, parce que un certain nombre de membres du groupe des Républicains n'ont pas répondu présent et n'ont pas suivi la position qui avait été arrêtée par leur parti. Mais ça n'est pas un échec, puisqu'il y a un texte, et ce texte sera, si la motion de censure est rejetée, mise en œuvre.
Eh oui, parce que la semaine prochaine, faut pas l'oublier ça, là, en théorie, là, depuis hier, il est adopté. La réforme des retraites, elle est adoptée. Et si la mousse, les motions de censure sont rejetées, à la fin de l'été, septembre prochain, la loi sur la réforme des retraites instaurant un âge à 64 ans, elle sera promulguée. Et la France sera à ce régime désormais. Alors, le 49-3 de la honte ou pas, il paraît que ça s'est joué jusqu'au dernier moment. Le président et la première ministre ont souhaité aller au vote. Et puis finalement, en comptant et recomptant, il paraîtrait que ça s'est joué à 5, à peine 5 voix près. Ils en veulent aux Républicains qui n'ont pas su tenir leurs troupes et faire en sorte que ça passe. Bon, on peut aussi jouer la partie, hein, aller au vote. Et si la loi est refusée par le Parlement, eh bien on reprend le texte, mon cousin, on le réécrit, on sort une autre réforme, et puis on repart devant les élus. Alors 49-3 de la honte ou pas, 32-16 pour en parler avec les GG, Jean-Baptiste Gébari.
Non, mais c'est une situation...
Est-ce que c'est la honte ou pas?
Je sais pas si c'est la honte, la rhétorique.
Sois honnête, Jean-Baptiste. Non, tu penses vraiment.
Non, mais je pense qu'il y a plusieurs sujets. D'abord, c'est vrai que la rhétorique politique du gouvernement, si on est complètement honnête, pour le coup, lundi, c'est pas un vote pour ou contre la loi, c'est un vote pour ou contre le gouvernement. Ouais. Puisque l'idée, c'est de censurer le gouvernement. Ouais. Donc je comprends bien qu'Elisabeth Borne dit que finalement, le texte qui est adopté sans vote, puisque c'est ça, en fait, à 49-3, le texte est adopté sans vote, c'est le texte issu des discussions entre les députés et les sénateurs, ce qui est vrai. Mais il n'en reste pas moins qu'effectivement, lundi, le sujet, ce sera de savoir pour l'opposition, si ils se mettent d'accord et s'ils sont suffisamment nombreux pour censurer le gouvernement. Après, ça renvoie à plein de sujets. Ça renvoie d'abord au sujet de la faiblesse aujourd'hui des partis politiques et de nos institutions politiques, ce qui se passe.
Ça renvoie surtout à un sujet d'un gouvernement qui s'y est pris comme un manche pour expliquer sa réforme.
Ça renvoie effectivement sur le chemin lointain. Enfin, d'abord, si on se rappelle tous de la séquence, on est parti en 2017 sur une réforme universelle. Ouais. On se rappelle que réforme à point, pas d'âge pivot. En 2019-2020, juste avant le Covid, il y a l'introduction d'un âge pivot. C'est la première fois qu'on a cette dimension budgétaire qui arrive. Et c'était
Édouard Philippe qui voulait
faire effectivement des travaux d'Édouard Philippe. En 2022, on a une campagne sur une réforme uniquement budgétaire, qui donc sort la CFDT d'un accord possible. Et puis on a effectivement cette négociation qui est menée par Elisabeth Borne depuis décembre, ou cette concertation, enfin on l'appelle comme on veut, et qui n'arrive pas non seulement à convaincre les partenaires sociaux, pas à convaincre les Français, et qui, in fine, n'arrive pas à solidifier sa majorité avec les Républicains. Ça renvoie là aussi à un parti aujourd'hui qui probablement n'est plus celui qu'il était, qui n'arrive plus, entre guillemets, à tenir ses majorités. Donc ça renvoie à tout ça. Et effectivement, alors c'est vrai que si on regarde les choses un peu factuellement, le 49-3, c'est un outil légal, constitutionnel, etc., etc. Il y a un vrai risque pour le coup. Et je pense que contrairement au 149-3 précédent, il y a un vrai risque que le gouvernement tombe pour cette fois.
On en parlera tout à l'heure dans le GG, c'était match.
Et donc, en quelque sorte, le président là aussi prend son risque. Et finalement, enfin moi je retiens un peu ce dont on dit que le président aurait...
Mais c'est pas la honte. Non mais vas-y. Tu peux trop bien dire, écoutez, non, c'est pas la honte.
C'est la honte, c'est la politique, et la politique, d'accord, c'est brutal. Donc c'est brutalement politique. Après, je doute pas que Bruno trouvera d'autres qualificatifs.
Joël.
Oui, moi je sais pas si on peut dire que c'est la honte. Moi je vois plutôt que c'est le 49-3 de la débâcle. Et c'est une débâcle qui était annoncée. Honnêtement, quand tu vois comment s'est passée l'élection présidentielle, quand tu vois qu'il n'y a pas une majorité absolue, quand tu vois que dans les syndicats, la CFDT qui était, on va dire quand même, un syndicat allié entre guillemets du gouvernement, c'est plutôt rattaché à la CGT. Quand tu vois que le mariage LR, la Renaissance, ça n'a pas été. Enfin, je veux dire, tu vois bien que c'est une défaite totale. Enfin, et moi, je vois un gouvernement qui est isolé, vraiment, qui est isolé, parce qu'en fait, ses soutiens, ceux qui étaient censés être ses soutiens, ne l'ont pas été, en tout cas LR pas jusqu'au bout, ne le sont plus pour la CFDT. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est un 49-3 de la débâcle. Et pour la honte, en tout cas, je crois que
La honte, la honte pour la démocratie, la honte peut-être pour
vis-à-vis
des Français, la honte pour le président de la République, effectivement pour le gouvernement qui pouvait faire preuve de courage en disant on va au vote, on tente le coup.
Visiblement le proposer d'ailleurs.
Oui, le proposer.
On dit que Gérald Darmanin, que Aurore Berger côté parlementaire proposait d'aller
au vote. Puis la démocratie, c'est aussi pas que des victoires, c'est apprendre à être battu aussi. Dire on a perdu, on reprend notre texte, on reprend notre réforme, et puis on revient plus tard avec un autre texte.
Visiblement, un des arguments qu'a utilisé le président de la République pour en quelque sorte valider cette position, c'est le fait que la France, dans un contexte macroéconomique un peu compliqué, prenait de gros risques financiers, etc., pour sa dette, pour son image, pour sa signature, etc. Je sais pas s'il l'a dit, c'est pas exprimé comme ça, mais visiblement, ça a été un des arguments. Il en quelque sorte dit, le destin de la France est plus important que les contingences politiques. Si c'est ça, c'est peut-être aussi ça.
Quand tu dis aux Français, alors c'est bizarre parce que le président de la République aurait dit ça en Conseil des ministres. Mon intérêt politique aurait été d'aller au vote. parmi vous tous, je ne suis pas celui qui risque sa place ou son siège, oui, puisqu'il ne se représente pas à la fin du quinquennat. Mais je considère qu'en l'état, les risques financiers et économiques sont trop grands, donc je vous autorise à utiliser le 49-3. Bruno Poncet.
Alors, moi, je trouve que l'onde, c'est même pas assez fort, c'est pire que ça.
C'est quoi?
C'est une bérésina, c'est totalement, enfin, de toute façon, quand
c'est
j'entends.
Un déni de démocratie aussi.
Ouais, et en plus, quand j'entends, moi, hier soir, je me suis torturé, hein. J'ai regardé Elisabeth Borne, c'est 4 minutes, là, sur TF1. J'ai trouvé même Gilles Boulot assez offensif, contrairement à des fois où il était quand même assez soft. Et je trouve que, quand elle parle que c'est l'endroit où on doit s'écouter, Assemblée nationale, enfin, eux, en tout cas, quand je dis elle, mais eux, tous. Cette majorité qui n'existe pas, ils n'ont pas écouté le peuple, ils n'ont pas écouté les Français, ils n'ont même pas écouté les corps intermédiaires. Comme le dit Joël et Jean-Baptiste, la CFDT, c'est pas que c'est un allié du gouvernement, c'est que la CFDT, ils ne sont pas dans ce que nous, on peut proposer comme syndicalisme de lutte, syndicalisme d'opposition à un monde capitaliste qu'on voudrait un peu descendre. Eux, ils ne sont pas comme ça.
Oui, mais ce matin, Olivier Dussopt dit on a eu 175 heures de débat, on a reçu les partenaires sociaux pendant plusieurs mois.
Non, mais ce n'est pas un débat. Moi, j'ai.
Il dit au bout d'un moment, il faut trancher.
Et Jean-Baptiste,
constitutionnel pour trancher, c'est le 49.
Non, mais Jean-Baptiste ne peut pas me contredire parce qu'il a vécu ça aussi. Moi, en 2018, nous, quand il y a eu la réforme ferroviaire, on nous a invités au ministère pour des concertations, où on te fait venir et où tu écoutes des gens parler, où ce que tu dis toi, on n'en a rien à foutre. Et à la fin, la loi ferroviaire, c'est pas compliqué. Spinetta sans rapport le 15 février. Je peux te garantir, la loi qui est sortie après le truc, c'était ce qu'avait écrit Spinetta. Il n'y avait rien de nouveau.
Ouais,
rien
non,
de...
C'est
rappelle-toi, Jean-Baptiste, il faut être honnête. Et les concertations, c'est pas ça, écoutez. Le dialogue social, c'est pas moi, je parle, tu m'écoutes et à la fin, je te fais ta loi.
Ouais, mais alors, pour le coup, c'est un bon exemple ou un exemple qui va pas tout à fait dans ton sens parce que, effectivement, il y a le rapport Spinetta, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas repris. Et moi, j'étais à l'époque député rapporteur de la loi, par exemple, sur les petites lignes. Lui, proposait de fermer
un tiers
des petites lignes, ce qu'on n'a pas fait. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'ai
non,
pas fait.
Vous l'avez pas fait, sauf qu'après, vous avez dit qu'à un moment donné, peut-être
il faudrait regarder. Là où il y avait une petite différence, c'est que par exemple, la CFDT Cheminot, ou l'UNSA Ferroviaire, étaient non pas du tout des supporters de la réforme, mais on a pu travailler au sens où on a pu vraiment négocier des amendements avec eux ou des positions avec eux. Là, du manière générale, le front syndical est unique contre la réforme. C'est aussi ça.
Mais ça, je ne comprends pas dans ce gouvernement, c'est de ne pas avoir compris.
Et d'ailleurs, ce n'était pas le cas, Bruno. Justement, dans la mouture précédente, Laurent Berger, patron de la CFDT.
Oui, il est pour la réforme par points.
Il s'est même engagé sur des congrès. Il est pour la réforme par points. Il s'est engagé sur différents congrès. Il a gagné ses congrès sur la réforme universelle. Donc, objectivement, il y avait un chemin avec Laurent Berger, avec la CFDT, sur la réforme universelle. Ce qui n'existe plus du tout maintenant.
Oui, mais là, tu sais, c'est pour prendre le verbe qui colle à la situation, c'est pourquoi être borné, quoi, ou l'adjectif, tu vois. Tu as la population qui est contre toi, tu as le Parlement qui est contre toi, tu n'as pas la majorité, tu as simplement une majorité relative. Et tu sais, on a l'impression que c'est un peu comme au moment de l'affaire Benalla, tu vois, il y a le président de la République qui dit vous c'est comme ça que vous le prenez. Allez, bah, venez me chercher et moi je vais aller au tampon, je vais aller au carton, ouais, quoi.
Mais qu'est-ce qu'on a dit au président quand on a voté pour les législatives? On lui a dit, on veut pas te donner toutes les clés. On veut que tu négocies, on veut que tu composes avec différentes oppositions. Et là, j'ai l'impression qu'il respecte pas. En fait, tu sais, ce vote, il date pas d'il y a deux ans ou trois ans. C'est moins d'un an. Donc en fait, la logique en fait que les citoyens ont mis dans ce vote, elle est toujours présente pour moi. Et là, c'est comme s'il disait, non, j'ai pas compris. Je veux pas ce que vous avez décidé. Je veux faire comme j'en ai envie. Et ça va pas du tout.
Il fait ça depuis 6 ans.
Ça va encore moins.
Donc le 49-3, c'est presque un doigt d'honneur.
C'est un bras d'honneur. Honnêtement, hier je l'ai appris comme ça. Je dis c'est un bras d'honneur et j'ai revu l'image de Dupond-Moretti et je me suis dit mais en fait il était déjà en train de. C'était un gros bras d'honneur.
Alors
vraiment.
On va aller dans le Pas-de-Calais, écouter Mathieu qui est conducteur de train privé. Bonjour Mathieu. Mathieu, il est là?
Oui, allô, je vous entends. Allô.
Bonjour Mathieu. Tiens, allez, on va prendre l'expression de Joël. Le 49-3, c'est un bras d'honneur ou pas?
Ouais, carrément. Je fais juste une petite aparté. Je passe un petit bonjour à Bruno que j'ai eu l'occasion de croiser.
Ouais, je me dis, c'est toi. On s'est vu avec le Gira, ouais.
Exactement, ouais, tout à fait. C'est pour ça que j'ai vu que t'étais là, j'entends parler du 49-3, on en a parlé, je dis, il faut que je téléphone.
Alors, pourquoi un bras d'honneur, Mathieu?
Là, très clairement, moi j'ai l'impression d'avoir en face de moi un maître et je dis oui, messire, et je m'agenouille et je courbe les chines. C'est exactement l'impression que ça me donne. Il y a très clairement la majorité de la population qui ne veut pas de cette réforme. Moi, j'en fais partie. Je suis dans le privé. Je fais quand même grève. J'ai fait grève jeudi. Je vais continuer à faire grève s'il y a besoin, malgré que ça me coûte du pognon ou quoi que ce soit, parce que je me vois pas continuer à tirer des trains. Alors que là, par exemple, je viens à peine de rentrer du boulot. Je suis debout depuis 23h hier soir. Ouais. Et je me vois pas continuer à tirer des trains à 64 ans. Surtout que nous, dans notre métier, et Bruno, il peut le confirmer, nous, on a une visite médicale obligatoire à passer, par exemple, tous les 3 ans. À partir de 55 ans, c'est tous les ans. Il suffit que ça soit recalé, je me retrouve sans boulot.
Oui, mais Mathieu, il y a la clause du grand-père qui va s'appliquer. C'est pour les nouveaux enfants.
Moi, j'ai rien du tout. Moi, j'ai une boîte privée. Je suis sous le régime du Code du travail. J'ai aucun avantage de la SNCF.
D'accord.
Donc, la clause du grand-père, elle existe pour les collègues cheminots, parce que pour moi, c'est des collègues, c'est pas des concurrents, qui sont au statut. Mais il faut savoir que la majeure partie aujourd'hui des personnes qui bossent dans le ferroviaire, ils sont pas cheminots, quoi.
Ouais. Mais Mathieu, vous avez 38 ans, qu'on soit en horaire décalé jusqu'à 40, 45 ans ou 50 ans, mais après, on n'est pas obligé non plus de continuer sur ce système. On peut réorganiser sa vie aussi, changer. Oui. Mathieu, il y a ça aussi à prendre en compte.
Ça aussi, je suis d'accord qu'on peut organiser sa vie. J'ai déjà passé par plusieurs boulots avant d'être dans ce métier-là. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, dans le ferroviaire, je reviens vraiment là-dessus, par exemple. Moi, j'ai mes collègues qui ont 60 ans. J'ai même un collègue qui a 71 ans qui continue à tirer des trains parce qu'il le veut bien. Les horaires, c'est pas nous qui décidons en disant je vais faire du 9h-17h. Hein. Si on dit ton train il part à 3h du matin, ton train il part à 3h du matin et tu te lèves à 1h pour aller bosser.
D'accord. Donc avec cette réforme et ce qui s'est passé hier, vous avez vraiment l'impression qu'on vous a mis une baffe et qu'on vous a fait un bras d'honneur, quoi, en fait, Mathieu.
C'est un bras d'honneur, c'est une baffe, et puis c'est très clairement fais ce que je te dis et tais-toi. C'est comme ça que je le prends. J'ai l'impression d'être.
Oui, mais le président vous a pas pris en traître. Hein. Il y a eu une élection présidentielle, un premier tour, ensuite des élections législatives, et on savait que cette réforme ça avancerait, Mathieu.
Bah, exactement. On savait que la réforme allait avancer. Maintenant, une réforme telle qu'elle est là, moi je suis partant pour qu'il y ait une réforme, mais pas celle-là.
D'accord. C'est l'âge,
moi,
en fait.
Si on me dit, par exemple, l'âge, c'est clair, c'est exactement ça. Si on me dit, il faut que tu bosses 43 annuités, je vais les bosser 43 annuités. Il y a pas de problème. Moi, je suis au boulot depuis que j'ai 16 ans. J'ai pas envie de continuer jusque 64 et des bananes. J'aurais préféré en effet qu'on dise on va mettre des systèmes d'annuités pour les personnes je pense aux couvreurs, je pense aux carreleurs. J'ai un collègue qui est menuisier ébéniste, il a mon âge, il a déjà le dos à moitié foutu. Pour les personnes qui ont justement ce type de boulot, de dire par rapport à la pénibilité, t'as des points bonus qui te permettent de partir pourquoi pas un peu plus tôt selon ton état de santé ou quoi que ce soit. Ok, c'est peut-être une usine à gaz, mais c'est quand même largement mieux que de dire maintenant tu le fais, tu te tais et puis t'as rien.
Donc j'ai l'impression qu'hier à l'Assemblée on vous a dit vous n'êtes pas content, peu importe, fermez vos gueules et on avance et on passe, quoi. C'est exactement ça.
C'est sois beau et tais-toi.
Alors Jean-Baptiste Gibari.
Non, mais en fait ce que décrit Mathieu, finalement c'est un peu les termes du débat de la réforme précédente, de la réforme universelle, c'est-à-dire on change de métier beaucoup plus souvent, on a parfois des conditions qui sont à prendre en compte. L'idée de la réforme à points, c'était ça. À chaque moment de votre vie, à chaque façon de travailler un peu différente, vous avez des points, vous faites l'acquisition de points qui vous valent des droits, et on avait essayé d'égaliser les droits pour de manière à mettre un peu plus d'égalité, ce qui effectivement n'existe pas tout à fait.
On va continuer la discussion. Mathieu, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Mathieu.
Bonne journée.
Du côté du Pas-de-Calais. À bientôt avec Joël Dagosséry, Jean-Baptiste Djebari, avec Bruno Poncet. Vous avez entendu ce qu'a dit Mathieu. Hier, il a eu l'impression d'avoir eu son bras d'honneur, qu'on lui dit courbe la tête, courbe les chines, tais-toi. C'est au 32-16 qu'on continue d'en discuter. 49-3, une onde pour la démocratie, le bras d'honneur du gouvernement aux Français. À tout de suite avec les GG.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est avec vous comme tous les jours et plus que jamais vu les circonstances du moment, le 49-3 hier à l'Assemblée, les premières violences qui ont commencé, la semaine prochaine, le vote de la motion de censure. Durant ces 3 heures, on va vous donner la parole au 32-16 avec Joël Dagosséry, coach de vie, Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste, et puis Jean-Baptiste Djebari, l'ancien ministre des Transports. C'est Luc qui nous appelle des Alpes de Haute-Provence. Luc, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Alors, ce 49-3, c'est un bras d'honneur aux Français?
Clairement, oui. C'est même un déni démocratique ouvert pour moi, au vu du contexte actuel. C'est-à-dire que vous avez quand même 70% des Français qui sont contre. Vous avez l'État d'un côté et les autres partis de l'autre, où quand même la majorité semble être contre, sauf si on prend les arrangements politiques. Moi, pour être concret, si vous voulez, je suis pas... j'ai pas été manifesté. D'abord, la réforme des retraites n'est même pas mon sujet. Ce qui m'énerve vraiment, c'est ce déni démocratique. C'est-à-dire que moi, j'ai pas manifesté contre cette réforme. Je pense qu'il y avait Étienne Lébig hier qui parlait de ça. Ça fait monter une colère. Et si jamais cette colère, peu importe la réforme de laquelle on parle, si cette colère, elle monte, en fait, si le gouvernement n'écoute pas le peuple et les oppositions, bah, au bout d'un moment, ça va exploser.
Mais pourquoi? Alors attendez, parce que moi c'est toujours. On peut faire la nuance entre un bras d'honneur et le déni démocratique. C'est-à-dire que le bras d'honneur, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Mais le déni démocratique, c'est pas un déni démocratique, puisque le 49-3 est dans la Constitution.
Oui, c'est technique.
Ouais, et voilà, même c'est si technique, c'est technique, le gouvernement, s'il veut faire avancer son texte, parce que c'était dans le programme, il peut l'utiliser. Et derrière, il y a le jeu démocratique des motions de censure et autres. Vous voyez, Luc?
Ouais, mais vous savez, alors c'est assez intéressant parce que ça, c'est un argument qui ressort très souvent avec vous. Sauf qu'en fait, une constitution, ça bouge. Vous savez, on n'est rien, hein, nous, à l'histoire de l'humanité. Hein. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est comme les lois, en fait. Il y a ce qui est légal et il y a ce qui est légitime. Mmh. Et là, clairement, ça n'est pas légitime.
Exactement.
Donc, il faut arrêter de sortir à chaque fois cet argument de c'est dans la constitution, donc c'est bon. Non, non. Ouais. Et la constitution, on peut la faire changer aussi. Hein. On est vraiment dans une temporalité précise, et clairement c'est imparfait. Et quand un système il est imparfait, ben faut le faire bouger. Et là clairement le système aujourd'hui, on a la démonstration qu'il est imparfait, puisque démocratie c'est quand même pouvoir au peuple. Et clairement là, notre argument que vous avez évoqué tout à l'heure, c'était ouais, bon, vous avez, quand même ils ont été élus, on a voté. Ouais, mais la démocratie c'est pas je vote une fois et après je peux plus rien dire. Ça c'est complètement abscon comme argument. Je suis désolé. Ce qui compte c'est d'écouter le peuple pour pouvoir justement derrière justifier l'action du peuple
et alors,
du
gouvernement Joël,
pour le peuple.
Joël, vous écoutez,
moi,
Luc.
C'est Luc ?
Oui.
Oui, Luc, moi je suis complètement d'accord avec vous, parce que si on est un peu trop légaliste, ça c'est ça, être trop légaliste. Ça veut dire que tu te dis bah j'ai le droit, c'est dans la constitution, c'est la loi, donc c'est bon. Mais non, en fait non. Là ça manque de discernement, ça manque de sagesse, ça manque de légitimité. Et j'ai fait tout l'historique, il y a rien en termes de légitimité qui permettait au président de se dire je passe par le 49-3, notamment sur cette loi. Tous les sondages, toutes les opinions ont montré que en majorité les gens étaient contre cette loi. Les votes à l'Assemblée nationale, enfin en tout cas les alliances qu'il a essayé de construire ont montré que même chez les Républicains qui étaient censés être normalement, enfin c'est leur loi quelque part.
C'est la réforme que les LR et notamment Sénat, ils ont toujours voulu. Ouais.
Exactement. Et même à l'intérieur des Républicains, il y en a qui étaient prêts à voter contre. Enfin quand c'est comme ça, tu dois comprendre qu'en fait le 49-3, t'es pas légitime pour l'actionner. Je suis désolée, même moi je suis de celles qui disaient que quand c'est dans la Constitution, c'est dans la Constitution, t'as le droit. Mais là vraiment, enfin je veux dire, quand tu prends du recul sur la situation de Macron, sur son élection, sur tous les débats, tu sais que tu n'as aucune légitimité. Là, vraiment, je suis vraiment désolé, ça ne fonctionne pas.
Luc, allez-y, pardon.
Ouais, ben je disais, en fait, votre émission de radio, elle est parfaite parce que souvent, vous mettez en avant des lois qui ont nécessité d'évoluer. Mmh. On peut parler, par exemple, je sais pas moi, la pédocriminalité, par exemple. Vous savez qu'il y a des lois aujourd'hui qui font que il y a ce qu'on appelle une période donnée. Si jamais vous dépassez la période, la pédocriminalité n'est plus du tout valable. C'est-à-dire que le temps fait que
la prescription.
Voilà, et vous êtes d'accord que dans votre émission, parfois on débat de cette prescription.
Oui, bien sûr.
La loi aujourd'hui, elle est telle qu'elle est, sauf qu'elle peut évoluer. Bah, typiquement là, il y a plein de choses qui peuvent évoluer, notamment au niveau du déni démocratique. Le 49-3, est-ce que c'en est un ou pas?
Donc vous voudriez sortir cet article de la Constitution, quoi. Attendez, Jean-Baptiste Gibari.
Ouais, je pense que Luc, il y a deux choses. Il y a le sujet de la substance de la loi dont on débat actuellement, et on a bien vu qu'en fait d'un sujet sur les retraites, c'est quand même rapidement devenu un sujet sur le travail, et là on peut tout à fait se dire que certains sujets n'ont pas été évoqués, notamment à l'occasion de l'élection présidentielle, et ça renvoie à tout le débat sur le fond, et puis il y a le sujet politique, démocratique, institutionnel, celui que vous décrivez, Luc, mais en vérité il y a eu des propositions, y compris dans l'élection présidentielle précédente, pour instaurer une 6e République. Et force est de constater que quand vous avez une proposition,
ça, c'est Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, Mélenchon,
et en fait beaucoup d'autres, parce qu'y compris Sandrine Rousseau appelle à une 6e République, et peut-être qu'effectivement cette 5e République elle s'essouffle un petit peu. Mais pour l'instant, cette proposition politique structurée pour faire ou mettre en œuvre une 6e République, elle ne suscite
pas
l'adhésion.
Oui, mais c'est cette 5e République qui a permis aussi d'avoir
les
Français ont aussi donné l'assemblée qu'ils voulaient aussi.
Bien sûr,
le président de la République est une assemblée de contestation.
Luc dit, il a raison de dire les lois, y compris les constitutions, même si c'est plus compliqué, elles évoluent au gré de l'évolution des sociétés. Il a complètement raison, mais aujourd'hui, il n'y a pas de proposition politique politique structurée pour faire advenir une 6ème République qui suscite l'adhésion. Il y a des propositions politiques, mais elles ne gagnent pas aux élections pour l'instant.
Merci à Luc d'avoir été avec nous.
Parce que tu as le bouton nucléaire que tu dois appuyer dessus. Enfin, tu vois, le 49.3, c'est un peu comme...
pas, d'ailleurs.
Tu vois, non, mais c'est un peu comme le... C'est un peu comme si tu avais...
Le bouton nucléaire politique.
Exactement. C'est pas parce que tu l'as... sous ton bureau, que tu es obligé d'appuyer
mais
dessus.
T'as raison, Joël. Et là, ils ont essayé de ne pas appuyer dessus.
Oui, mais ils ont essayé. Mais
il ne reste pas moins qu'effectivement.
Mais ils pouvaient ne pas appuyer dessus. Ils pouvaient aller jusqu'au bout. Ils pouvaient respecter ça m'oblige, quand qu'il a dit après l'élection. Ils pouvaient aller jusqu'au bout.
Et on l'a vu aujourd'hui, ce parti politique, ces gens qui nous gouvernent aujourd'hui ne savent pas à quoi ressemblent les gens qui le gouvernent. C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est que quand t'entends un bruit qui vient d'en bas, où on te dit, fais pas ça, un problème de pouvoir d'achat, là on rentre dans une période, le mois de mars, là, on est dans le mois de mars, où les prix vont vachement augmenter, et là c'est carré, et on te dit, attends, ta réforme de retraite, c'est pas la priorité, on a d'autres trucs. Ils s'en foutent. On te dit, arrête avec ce que t'es en train de faire, on n'est pas d'accord. Ils s'en foutent. Quoi que tu dises, ils s'en foutent. Et quoi qui, alors, et en plus, peu importe le messager. Que ça soit quelqu'un qui rencontre Macron sur un marché qui aujourd'hui, maintenant, tu peux plus rencontrer Macron sur le marché. Comme avant, tu pouvais rencontrer qui que ce soit. Jean-Baptiste a dû faire ça dans ta circo. C'est qu'à un moment donné, t'arrives et tu dis au mec, bon, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux plus avec lui. Aujourd'hui, Macron va quelque part, il est entouré par une armée où tu peux plus l'approcher. Et ceux qui l'approchent, c'est des gens qui ont été choisis. Et quand il n'est pas choisi, t'as vu ce qui s'est passé au sein de l'agriculture, le mec, tu l'étrangles à moitié devant tout le monde. Donc aujourd'hui, peu importe le messager qui explique à Macron que ça ne va pas, et aujourd'hui, t'apprends aussi par certains politiques que Macron n'écoute même pas ses conseillers. C'est-à-dire que lui, il a décidé d'un truc, il va le décider, peu importe. Oui. Et quand il te dit hier, et quand il dit à ses ministres, oui, c'est pas ma carrière qui est en jeu, mais mon gars, on s'en fout de ta carrière, on parle des Français, on parle des gens, et Mathieu te l'a dit, Mathieu te le dit, à 64 piges, t'as plein de métiers que tu peux pas faire. Et de dire, ouais, tu peux changer de métier cours de ta carrière, mais ça c'est bon quand t'as dans un certain type de métier, mais quand quelqu'un se retrouve caissière, pauvre elle peut pas changer de métier parce qu'à un moment donné elle n'aura pas de temps plus.
Non,
ton histoire de coach je vis, moi j'entends, c'est super.
C'est pas mon histoire de coach je vis, c'est même ma propre histoire, c'est l'histoire d'amis, mais c'est pas une question de ça. Moi je suis une autodidacte, j'ai pas de grand diplôme, c'est pas vrai ça. Et puis même, arrête de me dire, j'ai des clientes, franchement j'ai une cliente là, elle était femme de ménage, elle a tout fait pour changer, elle ouvre un salon de massage, donc franchement
un cas particulier qui te fait une
c'est
réalité.
C'est pas un cas, mais c'est aussi une vérité qu'il y a des gens.
Non, gamin, t'as pas le temps d'aller faire des études à côté.
Tient pas avec tes 62 piges. Je suis désolée, tu peux dire ce que tu veux, il tenait pas avec les 60 piges, il tient pas avec les 62 piges, 64 piges, ça ne tiendra pas, on nous dira que c'est 67 ans et c'est la vérité, donc arrêtez de soutenir un système qui tient pas et après vous pourrez parler.
Financement, les chercher ailleurs.
Mais arrête.
Mais c'est facile de chercher tout le monde qui bosse.
Alors attends, on va repasser par le 32-16, retrouver Jacques qui nous appelle d'Ardèche. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour les GG.
Alors, un bras d'honneur le 49-3 ou pas?
Pour moi, pas du tout. Pour moi, pas du tout. D'abord, parce que c'est un outil constitutionnel qui a été utilisé par maintes gouvernements quand il y a eu effectivement des faiblesses. On peut pas dire qu'il n'y a pas de faiblesse actuellement, mais pas du tout. À un moment donné, je crois qu'il faut bien avancer. Et entre les uns qui veulent couper la tête du roi et les autres qui attendent comme des hyènes que le cadavre soit quasiment mort, et que la droite républicaine, elle, n'a pas respecté, en fin de compte, l'engagement qu'elle avait donné. Parce que je suis convaincu que Emmanuel Macron et son gouvernement ne souhaitaient pas le 49-3, parce qu'ils savaient très bien ce qui allait advenir avec le 49-3. Simplement, il y a des gens qui n'ont pas respecté leurs paroles, et ils ont été obligés d'utiliser cet outil démocratique. Oui. C'est un outil démocratique pour moi. Alors, je vais citer mon cas personnel. Je suis photographe vidéaste, je suis en UERL, donc gérant non salarié.
Oui.
J'ai fait un petit calcul, je suis allé sur Internet, comme tout le monde, pour voir combien je touchais en retraite. J'ai 62 ans. Aujourd'hui, à 62 ans, 487 euros. J'ai un peu de trou dans la raquette.
C'est pas lourd, ouais.
Oui. Et à 67 ans, 800 euros. Ça veut dire que vous devez
faire votre retraite vous-même, quoi, en fait. Vous devez capitaliser, acheter un appartement, mettre un peu de rond de côté, c'est ça ?
Oui, sauf que le Covid est passé par là et qu'il m'a bouffé toutes mes économies.
Merde.
C'est pas pour autant que je suis sur les barricades en train d'hurler. Parce que le problème, c'est que ces gens, je comprends, moi, qu'il y ait effectivement des difficultés physiques pour certains métiers, psychologiques pour d'autres, et qu'on doit aménager les choses. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on pense aux générations qui vont venir. Et je suis convaincu que le gouvernement et M. Macron n'ont pas fait ça pour emmerder le monde. Ils ont fait ça pour penser un petit peu à ce qui allait se passer derrière. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en termes de démocratie, il n'y en a plus. Parce qu'il a quand même été élu, lui, démocratiquement.
On est d'accord. Mais moi, je commence un peu à être fatigué par la démocratie n'existe plus. Je voudrais qu'on m'explique ce que c'est la démocratie. Parce que finalement, aujourd'hui, chacun s'arrange avec la démocratie et la fait à géométrie variable. C'est-à-dire, absolument. Ça ne me plaît pas. Ah, ça ne me plaît pas. C'est pas démocratique. Bon, bah, si, non, c'est si démocratique. Vous voyez, je ne sais plus. Le 49-3, la Constitution, les institutions depuis 1958. Absolument. On l'a utilisé 100 fois. Ah, mais non, c'est pas démocratique. Ah, bah, si. Et je mets au défi, d'ailleurs, s'il y a une alternance, ceux qui arriveront au pouvoir, de défaire la cinquième pour de vrai. Oui, rappelons que François Mitterrand avait dénoncé le général de Gaulle, le coup d'État permanent. Mmh. Quand il est arrivé au pouvoir à l'Élysée en 1981, il a endossé sur deux septennats les habits de la cinquième. Alors j'attends les grands donneurs de leçons du moment.
Je voudrais dire quelque chose.
Allez-y, Jacques.
Pourquoi le 49-3? Parce que effectivement, il aurait pu dire, bon, hop, je dissous et on repasse au vote. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
La démocratie, les gens iront voter.
Oui, ils iront voter, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous avez les deux extrêmes qui vont se combattre, mais d'une force, mais d'une violence extrême. Et ça va être, alors c'est pas la chienlit, ça va être le bordel. Donc lui, il essaye de laisser, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi ce que je dis, de laisser la démocratie la tête hors de l'eau, pour que effectivement ça s'apaise un petit peu, parce que c'est ça le problème, c'est que on dissout, d'accord, on fait quoi une fois qu'on a
On en parlera, on évoquera les scénarios tout à l'heure dans le GG 7 et match sur la chute éventuelle du gouvernement. Jacques, je vous remercie d'avoir été avec nous. Jean-Baptiste Gébari, tu voulais ajouter quelque chose?
Jacques Delardèche, la France est un pays démocratique et il faut vraiment voyager pour voir dans d'autres pays des systèmes plus autoritaires voire pire sont à l'œuvre, et heureusement qu'on peut s'exprimer, dire absolument ce qu'on veut en France. Il y a deux sujets. C'est est-ce que notre système démocratique il est efficace, au sens est-ce qu'il produit des normes efficaces pour les citoyens, les travailleurs, la prospérité du pays, premier élément. Et la réponse est probablement plutôt pas assez efficace. Et deuxième sujet, c'est quand même qu'on est dans un moment, effectivement, où dans notre démocratie, on a un affaiblissement tous azimuts du système politique, de la représentation, des partis politiques, des syndicats, de l'idéologie. Il n'y a plus beaucoup d'idéologie en France et dans le monde d'ailleurs.
Si, des
propositions
de
radicales, mais dans l'arc dit modéré, il y a plus beaucoup de propositions politiques d'idéologie. Le macronisme, par exemple, s'est beaucoup cherché une proposition politique à faire prospérer. Donc tout ça, effectivement, ça crée aujourd'hui beaucoup de frustration. Et une démocratie assez peu efficace.
Je remercie Jacques d'avoir été avec nous. On va regarder, est-ce que le 49-3, c'est un bras d'honneur. Est-ce que c'est le 49-3 de la honte? Voyons votre sentiment. C'est un oui à 83% pour les 2500 personnes, je crois, qui ont voté, qui ont écouté là durant ces 20 minutes de discussion. Vous inquiétez pas, on ne branche pas le dossier réforme des retraites, crise politique. Tout à l'heure, à 10h, vous avez vu hier les violences qui ont éclaté dans plusieurs villes. Bon, essentiellement à Paris. Là, la question de confiance. Vous comprenez? Ou vous condamnez? 32-16 pour en parler tout à l'heure avec les GG. Et en attendant, ce sera le on s'en fout pas avec notre productrice Anaïs.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Qui est dans les GG aujourd'hui? Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste. Nous sommes avec Jean-Baptiste Djebari, l'ancien ministre des Transports. C'est Joël Dagosséry, la coach de vie qui nous accompagne aussi aujourd'hui. Il est l'heure d'accueillir notre productrice Anaïs Sainz.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Alors, je devrais dire maîtresse Anaïs.
Ah ouais. Je suis venue avec un martinet. Vous êtes un petit peu indiscipliné ce matin, donc faites gaffe à vous.
Ouais, c'est le ministre indiscipliné,
madame Bruno.
Je pense que c'est le ministre. Aïe, c'est le ministre des gens.
Les GG. Des mannequins à l'effigie de Macron, Borne, Dussopt et même Olivier Véran brûlés à Dijon hier pendant la manifestation contre la réforme des retraites. Ces mannequins sont côte à côte, allongés au sol, un manifestant les asperge d'essence avant de mettre le feu Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël ?
On s'en fout pas.
Jean-Baptiste ?
On s'en fout pas, évidemment.
Et Bruno ?
On s'en fout pas.
Jean-Baptiste ?
Bah là, on s'en fout pas. De toute façon, ces violences à la fois physiques et commises sur les réseaux sociaux, elles sont objectivement insupportables. Et on peut tout à fait critiquer, protester, condamner, y compris tenir des propos qui peuvent être politiquement agressifs pour défendre des positions. Mais je trouve que tout ce qui est symboliquement du ressort de la mort, de l'humiliation, de tout ça, évidemment, à condamner. Ouais.
Et d'ailleurs, Gérald Darmanin va renforcer la protection autour des élus de la majorité, hein, Joël.
Oui, c'est pour ça. Enfin, je crois pas que ces choses-là restent éternellement en termes de symboles. Moi, j'ai toujours peur que ça se traduise en réalité. Et j'oublie pas l'épisode Gilets jaunes où on voulait aller marcher sur la République et où c'était super chaud pour l'Élysée, donc non, moi je minimiserai jamais ce genre de symbole.
Et tu condamnes ?
Ah, je condamne complètement.
Bruno. Ça peut venir de qui, ce genre d'initiative ?
Mais arrêtez, enfin vous faites.
Bah non, mais réponds.
Non, mais vous faites pitié depuis tout à l'heure, sans déconner. Ils ont quand même pas cramé les vrais, ils ont cramé des mannequins.
Mais alors ?
Ça fait depuis des années qu'on fait ça. Mais à un moment donné, faut arrêter. Enfin, ouais, le truc c'est que c'est une caricature, voilà. Mais
ça se fait en manif, quoi.
Par contre, n'oubliez pas un truc. C'est que, à force de mépriser les gens, et que la réponse des gens, ils arrivent plus à atteindre ceux qui les méprisent. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais quand même parler à ton député, machin. Là, maintenant, le député, alors, ça me fait rigoler. Ça veut dire que la République en marche est en train d'apprendre qu'ils sont élus par des gens qui vivent vraiment, tu vois. Donc maintenant, ils ont peur d'aller retourner voir les gens qui vivent vraiment. Ça me fait un peu rigoler.
Mais tu vois ça,
Jean-Baptiste, si tu crois que ça, c'est violent.
Y compris au moment des gilets jaunes.
Non, Jean-Baptiste, c'est pas violent. Va te mettre. Alors, moi, je vais juste te dire un truc. Quand t'es obligé dans une manif pacifique, de mettre tes députés entre toi et les flics pour pas que les flics qui t'arrosent ou qui te tabassent, c'est qu'il y a un vrai problème dans la démocratie.
Je pense qu'il y a deux choses.
Ouais, soyez quand même cool un peu.
Moi, j'ai été député, y compris au moment des Gilets jaunes. Tu peux parler aux gens, les députés sont pas hors sol, etc. Il y a pas de sujet.
Mais pas tout ce qui est violence. Berger, quand tu l'entends causer, elle est hors sol complet.
Tu feras ton petit débat avec Aurore Berger. Mais je te dis, la plupart des députés, ils ont une vie avant, ils auront une vie après, ils sont pas hors sol et tu peux discuter avec eux. Après, enfin, honnêtement, ce que
ça fait pas partie du folklore des manifs comme ça quand
Jean-Baptiste, c'est ça, mais arrêtez.
Au Royaume-Uni, il y a 2 ans et demi, il y a des députés qui se sont agressés, il y a un député qui s'est fait tuer. Oui. C'est ça aussi la réalité. C'est quand tu as une violence désinhibée partout sur les réseaux sociaux, quand tu es homme ou femme public, tu reçois des menaces de mort.
Rémi Fraisse s'est fait tuer aussi par des. Tu vois, Rémi Fraisse, dans les manifestations, s'est fait tuer. On peut t'en mettre d'autres, même comme ça.
C'est normal quand tu es homme ou femme public, ou même personnalité publique, de recevoir des menaces de mort en permanence de façon désinhibée par des types qui pensent qu'ils ont le droit de
se faire tuer. Ça, c'est les réseaux sociaux. Dans la vraie rue, les mecs, ils t'attrapent pas pour te tirer par les cheveux. Sinon, toi, dès que tu rentres dans une gare, on t'attrape par les cheveux.
Symbolique, la violence désinhibée, ça peut emmener à des drames.
Oui, mais
moi, je respecte parfaitement ce que tu dis sur l'humiliation des gens. Il faut pas
tu l'exprimes comme
mais
ta colère,
désolé,
tu l'exprimes pas face aux vrais gens.
Symbolique,
oui, mais c'est pas le mec, c'est pas forcément le mec qui brûle là qui va aller tuer Macron ou Borne. C'est d'autres personnes, il y a des fous.
Attends,
parce que celui-là, il maîtrise sa colère, mais t'en as d'autres qui maîtrisent pas leur colère, comme ce type.
Tout le monde maîtrise sa colère. Ça va nous amener à parler de la violence tout à l'heure à 10h avec vous au 32-16, à ce qui s'est passé dans les rues de Marseille, de Paris, de Rennes, de Nantes. Est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous condamnez fermement? C'est au 32-16 qu'on viendrait en parler, ou peut-être vous faites partie de ceux qui veulent de la radicalité aujourd'hui. Anaïs, on continue.
Et les GG, on approche les 10 000 tonnes de déchets à Paris. Joël, on s'en fout ou pas?
Ah non, on s'en fout pas.
Jean-Baptiste?
On s'en fout pas parce qu'on subit.
Et Bruno?
On s'en fout pas.
Allez-y.
Ah, c'est
Joël
qui parle.
Joël? Non, le 16e, le 16e est souillé.
Ah oui, vraiment.
Non, mais c'est vrai.
Non, c'est vrai. Il y a des.
J'ai mesuré, il y avait quasiment 2 mètres à un endroit du 16e hier soir quand je suis parti.
Il y a des poubelles partout et ça commence autant là, ça restait un peu contre les murs et autant là, vraiment, tu vois que ça prend vraiment le trottoir. Ceci dit, moi, ma fille et mon chéri sont contre ça, mais moi, je comprends les éboueurs quelque part. Voilà, c'est un métier qui est assez difficile. C'est un métier où tu es dans la merde tout le temps. J'ai pas envie, même si je suis contre les grèves, hein, ça changera jamais, etc. Mais j'ai pas envie
c'est
de leur taper.
Parce que tu comprends ce qu'ils font.
Non, j'ai pas envie de leur taper dessus. Voilà, j'aimerais qu'ils reprennent le boulot assez vite, mais sans non plus leur taper dessus, comme je pourrais taper sur la SNCF par exemple. Tu vois, parce que eux, pour le coup, ils font vraiment un boulot pénible. À la SNCF, je suis pas sûre que ce soit pénible.
Bah, t'as qu'à venir, tu verras.
Ah, j'ai des doutes sur la pénibilité.
T'as raison, tiens.
C'est pas facile.
Côte de Jeuvis, c'est pénible ou pas?
En termes de pénibilité.
Ça doit être pénible, Côte de Jeuvis.
Ah, c'est pas facile, je t'assure. Ah, vraiment.
J'imagine.
C'est pas facile.
Ah, je sais pas pourquoi.
Mais non, mais vous comparez tout et n'importe quoi. Mais parce que c'est vous, à chaque fois. Mais vous faites des grèves toutes les 4 secondes. Mais dès qu'on respire, vous faites une grève. Donc, voilà.
Alors, vas-y.
Rater des cailloux, ça va. On n'est pas en 1895.
Pour
arrêter un petit peu.
Bruno, les 10 000 tonnes.
Bah, 10 000 tonnes, moi je trouve que c'est bien. Ça prouve que quand ces gens-là s'arrêtent de bosser, bah, ça se voit. Et puis qu'à un moment donné, tu vois, encore tout à l'heure, je parle pas de déni de démocratie parce que c'est un mot qu'on peut mettre partout, mais par contre, eux, ils ont des revendications, on a envie, ils ont envie qu'on vienne leur parler, ils ont envie qu'on vienne discuter avec eux pour savoir ce qu'ils réclament et tout. Personne ne va les voir. On est juste en train de leur dire, on va t'envoyer les CRS pour que tu te ramasses les ordures des quartiers de bourgeois. Eh ben, allez vous faire foutre.
Mais pas que les quartiers de bourgeois, mais arrête un petit peu, toi. Il y a que le 16e, il y a que les poubelles. T'as pas de poubelles dans le 18e.
T'as pas de mètres carrés dans Paris.
Tu crois
que tes copines caissières peuvent payer un appartement dans Paris?
Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais t'as tellement un mépris pour les gens, Bruno. Mais excuse-moi, il y a pas de poubelles dans le 18e. T'as pas de poubelle dans le 18e, dans le 10e, y'a pas de poubelle.
Y'a
pas de poubelle dans le
19e.
Y'a pas de poubelle dans le 19e. Réponds. Vas-y. Ouvre ta bouche et réponds. Y'a pas de poubelle dans le 19e.
Qu'est-ce qui lui arrive, là?
Non, mais je te demande. Y'a pas de poubelle dans le 19e.
T'es coach de gros mots, on va dire, t'en fais plein un peu, quoi.
Y a des poubelles dans le 19e.
Y a des poubelles partout, mais qui habite dans ces quartiers aujourd'hui? C'est des quartiers populaires.
Ce sont pas des quartiers populaires. D'accord. Donc arrête de parler que du 16e. Les poubelles, elles sont partout. Donc arrête.
Non, elles sont pas partout.
Ah, ben, bien sûr. Elles sont dans le 16e. Non mais arrête un peu s'il te plaît, franchement.
On continue.
Près d'un Français sur quatre croit aux fantômes selon une étude. Au moins donc un autour de cette table. Joël,
oui.
Tu crois aux fantômes? Tu sais, aux fantômes, aux esprits.
Non,
oui,
mais j'y crois.
Tu peux, oui.
Oui, j'y crois.
Tu crois?
Oui.
Jean-Baptiste?
C'est une vraie question. Hein.
Non, moi j'y crois pas, mais j'aurais envie d'y croire.
Ah bon?
Bruno? Non.
Dans le micro.
Non, moi j'y crois pas. Et pourtant, j'ai une région où les sorcières sont.
Ah oui, Bourges, oui.
Ah ouais,
moi, les
amis.
Les
sorcelleries, oui.
Les amis. L'IFOP dévoile ce matin une étude sur les croyances des Français et aussi des Américains dans les sciences occultes. Un Français sur quatre croit aux fantômes. Un Français sur quatre, c'est loin derrière les États-Unis, enfin les Américains, qui sont quand même. 1 sur 2, donc la moitié des Américains croient aux fantômes. Autre chose dans cette étude, 21% des Français croient au diable, 34% au spiritisme, 40% à la télépathie. La télépathie, si j'y crois un peu.
Ouais, moi aussi,
mais non, mais attends, si tu crois en Dieu, quelque part, tu sais qu'il y a le diable. Enfin, c'est bizarre mais, de dire ça, mais tu crois en diable.
Des esprits du mal.
Tu penses, et puis même, quand tu crois en Dieu, tu penses au Saint-Esprit. Enfin, non,
ah bon,
tu comprends qu'il y a des. Je sais pas, quand t'es chrétienne, en tout cas, enfin voilà, t'as quand même le Saint-Esprit. Donc, tu crois forcément qu'il y a des choses que tu ne vois pas, que tout n'est pas matérialisé comme ça devant tes yeux. Donc, oui, quelque part.
Mais est-ce que t'as déjà été confronté à des manifestations de
ouais,
fantômes?
Ouais, des manifs, j'en ai vu plein. J'en ai vu plein dans ma vie.
Non, mais franchement.
Non.
Ou un truc un peu surnaturel, tu te dis, ah, ça y est, ça y est.
Ouais. Non, mais quand je dormais, j'ai senti comme un poids sur moi qui venait comme ça.
C'est ton mec. Tu dormais, c'est tombé.
Qui se faisait appeler le fantôme, mais c'est la force, ce sont vos
choses. Il avait mis un drap sur lui.
Mais non, mais il y a des choses qui se passent, vous voyez pas tout.
Okay.
On ne nous dit pas tout.
Allez, dans un instant, on revient à la réforme des retraites, les scènes de violence qu'on a vues hier, notamment à Paris. Vous condamnez sans réserve ou vous comprenez? 32-16 pour le dire au GG.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.